Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Quand je suis à micro déjà, disons que ça guide mes pas. Les rencontres, les découvertes, apprendre. Je crois que ça a toujours été... Ce qui me tient, c'est tant que j'apprends des choses, j'avance. Dès que je me rends compte que j'apprends plus rien, j'ai du mal. Et voilà. C'est ce qui rend la vie professionnelle parfois un peu compliquée. C'est très facile d'être dans une vie professionnelle où on n'apprend plus rien.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Olivier Favier, l'auteur de chroniques d'exil et d'hospitalité, vie de migrants ici et ailleurs, livre paru aux éditions du Passager clandestin.
Ça suppose d'avoir des priorités parfois un peu surprenantes et pas toujours confortables. Mais c'est, de toute façon, c'est pas une morale, c'est pas une injonction, c'est une nécessité, quoi. J'ai toujours été comme ça, j'ai une sorte de... C'est le mauvais revers de la curiosité. Voilà, c'est que ça devient une nécessité, une drogue. Un peu comme mes 20 cigarettes par jour.
Peut-être même une urgence.
Peut-être même, ouais, je sais pas. Non, parce que ça peut être tranquille aussi, des fois. Je sais pas, je peux passer par exemple des journées à procrastiner en lisant des articles de gauche et de droite sur Internet, etc. Mais tant que j'ai l'impression que j'apprends des trucs... Que je découvre, voilà. Internet pour moi est un outil fabuleux pour ça parce que ça me permet de faire devant un écran ce que je faisais avant. Je partais à la génération qui a connu avant et on est, par définition, on sera de moins en moins nombreux. Mais c'est vrai qu'avant, voilà, je pouvais passer par exemple des après-midi entières dans des bibliothèques à passer d'un livre à l'autre, d'une curiosité à l'autre, d'une encyclopédie à l'autre. Et là, c'est vrai que j'ai deux outils qui m'aident à faire ça, c'est Internet. Et les rencontres, et notamment les rencontres des migrants. Ce que j'aime bien, c'est l'échange. Et pour qu'on réponde à une question, il faut que la question soit posée, et qu'elle soit posée de la bonne manière, sinon on a une mauvaise réponse. Ce qui est bien quand on fait des entretiens, par exemple, avec qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que ce n'est pas un entretien où la personne elle doit se présenter sous tel ou tel jour, ou elle pense qu'elle doit se présenter sous tel ou tel jour pour obtenir quelque chose, mais qui est juste une façon d'échanger, de poser les choses. Et j'espère parfois aussi de faire pour la personne qui est en face, de faire un petit peu le bilan de son parcours, de ce qu'elle a fait. Enfin, en tout cas, moi, quand quelqu'un vient pour me poser des questions, c'est un petit peu comme ça que je le prends. Je trouve ça toujours parfois intéressant de raconter certaines choses qu'on a faites ou qu'on a vues ou qu'on a ressenties, parce que ça permet de remettre un peu de l'ordre dans sa tête, quoi. Donc je me dis toujours que, bon, au minimum, pour la personne que j'interroge, ça doit pouvoir faire ça, ça doit pouvoir servir à ça, à reposer, à remettre un peu de... à remettre un peu les choses en ordre, à reposer ses souvenirs, à reclasser les choses, à faire aussi qu'ils ne se perdent pas, tout simplement, parce qu'on oublie beaucoup de choses. Un des jeunes que j'avais interviewé, ça c'était Mamadou, qui ça m'avait beaucoup touché à la fin de notre entretien, qui a duré 6 heures, il m'a dit « Tu sais, c'est très important pour moi parce que je sais que je vais oublier. » Et comme c'était un jeune qui avait 17 ans, ça m'a quand même... parce que, nous, on sait qu'au bout d'un moment, on oublie des choses. Mais à 17 ans, je me dis qu'il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. On pense qu'on se souviendra toujours de tout, qu'il y a des choses qui sont très importantes aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne le demeurent pas. Et en fait, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que nos priorités elles changent qu'il y a des choses qui s'effacent. Et que parfois, quand on a noté, le simple fait de noter... certaines étapes d'un parcours, que ce soit parce qu'il y a une trace filmée, parce que quelqu'un ou vous-même avez écrit sur une période ou sur quelque chose, enfin quand vous avez des traces, des sources, comme on dit dans la recherche historique, eh bien, parfois quand on retombe dessus 10 ans ou 15 ans après, eh bien, il y a plein de choses, on se dit « Ah oui, bah oui, je m'en souvenais plus, je ne savais plus ». Et c'est parfois, ça peut être, c'est utile de garder une trace de certaines choses. En tout cas, pour moi, je pense que c'est, pour notamment les jeunes que j'interviewe, je pense que c'est important que quelque part soit conservée la trace de leur parcours, de leur questionnement, pour qu'à un moment donné, même dans 20 ans, dans 30 ans, ils puissent y revenir et puis aussi transmettre, voilà, par rapport à leur... que ce soit un parcours qui fasse partie de leur vie de la bonne manière. Pas comme comme quelque chose d'un peu honteux dont il faut se débarrasser au plus vite pour être conforme au modèle de société qui nous attend. Voilà.
Quel est le bon terme, en fait ? Est-ce qu'on doit parler de réfugiés, d'exilés ?
Mmh. Ah, il y a... Ça, c'est les grandes questions sémantiques qui sont parfois, qui trahissent parfois des sous-entendus idéologiques. Il y a eu un travail qui a été fait, fait par une copine, et qui a été publié sur le site, le blog de la CSP 75, et qui utilise notamment des différents sites institutionnels, journalistiques, politique, indépendant, etc. Et qui regarde, il s'appelle Quiliquois, et qui utilise tel ou tel mot. Évidemment, on va se dégager certaines lignes, on peut utiliser certains mots parce que, par exemple, on est... voilà, si on est à France Terre d'Asile, on va parler plutôt de réfugiés, parce que France Terre d'Asile s'occupe d'abord des gens qui font une demande d'asile. Donc c'est normal qu'ils utilisent le terme de réfugiés. D'autres associations vont parler plutôt des immigrés ou des migrants, on peut parler sans papier. Moi j'aime bien le mot migrant parce que le mot migrant il définit quelque chose de très simple. On est migrant quand on est parti d'un pays, qu'on va vers un autre endroit et qu'on n'est pas encore arrivé. Et ne pas être arrivé, c'est parfois simplement être dans la rue. Même si on va rester en France, quand on est dans un bidonville à Calais, parce que les gens qui sont à Calais dans certains cas vont rester en France, ou quand on est... dans un camp de fortune à Paris, on n'est pas vraiment arrivé. On reste un migrant. Avec des perspectives qui peuvent aller du celle d'un demandeur d'asile qui va obtenir un statut de réfugié et qui donc sera au moins protégé politiquement. Après, les aides, elles sont ce qu'elles sont. Au statut qui attend malheureusement la majorité des personnes, qui est celui de sans-papier, c'est-à-dire un statut où on s'installe dans une espèce de non-existence administrative et où tous les travaux, les métiers qu'on fait sont des métiers non déclarés, etc. etc. C'est des situations qui peuvent durer plusieurs années et qui sont extrêmement pénibles et extrêmement dangereuses pour les personnes. Parce que on vit... il faut trouver un appartement non déclaré, il faut trouver un travail non déclaré, il faut... Voilà, on a une vie non déclarée. Et c'est un petit peu compliqué. Il y a des pays où ça pose pas de problème parce que c'est les protections de l'État sont moins fortes. Ici, quand on est... Effectivement, il y a beaucoup de protections, il y a beaucoup de choses qui sont louables. Hein, le fait que, voilà, on a le droit à la santé, on a... des droits, avoir un revenu minimum, etc. Mais pour tout ça, il faut avoir des papiers, il faut être en règle. Et quand on n'est pas en règle, eh bien on est en dehors de tout ce que peut avoir de protecteur ce système, et on en subit juste les tracasseries administratives. Et comme les gens ne sont pas non plus habitués à vivre en dehors de ce système-là, ben c'est très dur, c'est beaucoup plus dur paradoxalement de vivre en dehors d'un système qui est censé protéger toutes les personnes habitant sur le territoire, mais qui dans la réalité protège les citoyens et crée une sous-catégorie de personnes qui ne sont pas citoyennes, que de vivre finalement dans un pays où les choses sont sans doute moins organisées, mais où tout le monde finalement se retrouve plus ou moins sur un pied d'égalité.
Quel terme vaut-il mieux employer ? Exilé ou réfugié ? Votre réponse, c'est migrant.
Voilà. Alors après, exilé, c'est encore là. Exilé, c'est un terme qui a été pas mal utilisé parce qu'il est un peu générique. Après, moi, exilé, ce qui m'embête, c'est que exilé, c'est un terme très, très générique qui parfois, dans certaines utilisations, peut frôler un petit peu le politiquement correct. Parce que, certes, Victor Hugo, par exemple, a été exilé, mais enfin, Victor Hugo, il ne vivait pas dans un bidonville. Et quand il était à Guernesey, il avait une belle maison et il était considéré comme un héros. Et le fait d'être un exilé politique ne l'a pas plongé dans la misère. Par ailleurs, exilé, c'est quelque chose de très intime. Et je trouve que c'est un petit peu gênant de l'extérieur de plaquer la notion d'exilé sur des personnes. On peut être un migrant, finalement, ça décrit une situation, c'est assez objectif. Exilé, ça décrit un état d'âme. Souvent, on l'employait autrefois pour justement les personnes qui quittaient un pays pour des raisons politiques. Et ce n'était pas forcément un hasard, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était des gens, par exemple, qui s'étaient battus pour une certaine idée de l'unité italienne et qui s'exilaient en France. Eux ressentaient effectivement cette déchirure, ce départ, etc., comme un arrachement. Quand je discute avec des migrants, certains laissent pas grand-chose derrière eux, c'est-à-dire pas beaucoup de regrets. Pour un Afghan, c'est pas forcément très douloureux quand on a vécu dans un pays en guerre, en pleine insécurité, de quitter l'Afghanistan. Eux, ils sont plutôt contents d'arriver dans un nouveau pays en se disant « Enfin, je vais vivre dans un pays en paix, où je vais pouvoir trouver un travail, où il y aura des règles, où je pourrai sortir dans la rue sans avoir peur. » Et finalement, le temps des regrets, de l'exil, de la nostalgie, etc., il est pas forcément... Encore une fois, il est très personnel. Et voilà. Et ça, c'est une certaine manière, parfois, de vouloir... moi, j'appelle ça un peu une sorte de politiquement correct, un peu... C'est peut-être pas le terme qui convient, mais en tout cas, une espèce de vouloir être utilisé, des grands mots, etc., pour finalement s'immiscer dans la tête des gens. Mais laissons l'intimité des gens tranquille. Voilà. Nous, on parle de réalité matérielle, là, on ne parle pas de ressenti. Après, on peut en parler, mais c'est un titre individuel.
Réaction autour de l'installation de Calliope Lemos exposée dans la cour du château des Ducs de Bretagne à Nantes.
De loin, on se demandait vraiment ce que ça faisait là. Et puis quand on a l'explication, bon, ça peut donner, oui, une idée, mais bon, je trouve que ça n'a pas trop sa place quand même au milieu de la cour du château, mais bon.
Pourquoi ?
Ben, je ne sais pas, c'est incongru un peu. Mais c'est un avis personnel. Hein. Mais c'est vrai que ça mérite l'explication.
Oui, moi, je n'ai pas d'avis. j'ai du mal à avoir un avis aussi. Bon, on découvre après.
On montre la couverture du livre, Olivier.
Oui, voilà.
Mais
je découvre le
quand on a l'explication...
J'ai rien à voir avec l'explication.
Non, ça n'a rien à voir, mais c'est, je faisais des jonctions.
Voilà, il m'a dit, on va voir un endroit, tu vas voir, qui est en lien avec le livre que tu as écrit, donc voilà.
C'est d'actualité toujours. Hein.
Le livre, ça. C'est sur l'immigration, quoi.
Sur l'immigration, voilà, sur le...
L'immigration générale.
En général, oui. Okay. Voilà. Mm-hmm. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Bah, c'est des gens qui sont à plaindre, c'est des pauvres familles, on a tous vu ça dans notre enfance, avec les Italiens, les Portugais qui étaient venus en France et qui travaillaient avec toutes les difficultés. Polonais. Et les Polonais, parce que moi je suis de Bourgogne, il y avait beaucoup de Polonais. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait des mines en Bourgogne. Et c'est les Polonais qui sont venus aussi pour extraire le charbon. Donc ça faisait partie de l'immigration avec toutes les difficultés d'intégration qu'il y avait aussi à ce moment-là. Hein. C'est toujours difficile quand on se sauve de son pays, il y a une bonne raison de se sauver, quoi.
Nous accompagnons dans la rue Olivier Favier, l'auteur de chroniques d'exil et d'hospitalité, vie de migrants ici et ailleurs, livre paru aux éditions du Passager clandestin.
Kyriakides Meloglou, la commissaire de l'exposition, icône trésor des réfugiés, et la barque de Madame Calliope Lemos, aussi, qui est l'artiste dont l'œuvre fait partie intégrante de notre scénario d'exposition. Donc, c'est une barque turque qui a fait le voyage de Grèce pour arriver jusqu'à la cour du château. Et donc, elle est couverte des plaques votives. Sur les plaques votives, on voit les prénoms, la date d'entrée et l'origine des immigrés qui ont débarqué sur les côtes grecques. C'est une barque, en fait, parmi tant d'autres qui débarquent sur les côtes grecques échouées et que l'État grec, en fait, confisque. Et depuis 2003, Madame Lemos, elle achète ces barques suite à des négociations avec l'État grec pour les utiliser dans son œuvre. Donc voilà ce que je peux vous dire au départ. C'est un prologue, c'est le prologue et l'épilogue de notre exposition qui traite le sujet de l'immigration grecque en 1922 des côtes d'Asie mineure vers la Grèce. Donc on parle toujours d'une immigration parmi d'autres. C'est le prétexte de l'exposition. Il y a les icônes qui représentent ce que ces réfugiés à l'époque ils ont cru bon de transporter comme un ancrage aussi qui leur permettrait de se réinstaller dans une nouvelle patrie qui au départ était la Grèce. Elle les a accueillis avec les situations sociales et économiques de l'époque. 1922, c'était assez difficile. Donc nombre de ces réfugiés grecs, ils ont immigré vers les États-Unis, la France. Et justement, pourquoi on fait cette exposition dans un musée d'histoire, qui est les châteaux, c'est parce que justement, on raconte leur histoire, leur voyage, leur trajectoire à travers ces faits historiques, à travers les objets qui sont exposés. Et on termine justement avec des icônes qui ont été prêtées par des familles de réfugiés grecs ayant été installés en France.
Tu peux parler de ton travail ?
C'est un travail que j'ai mené sur 3 ans. Qui est un travail de manière autonome, on va dire, et sur les migrants qui arrivent aujourd'hui en France. Et puis, une des motivations, oui, c'est que mon grand-père est venu d'Italie quand il avait 16 ans. Donc, il serait aujourd'hui ce qu'on appelle un mineur isolé étranger. Et qui me disait toujours « Ah, si j'avais pu raconter mon histoire !» Donc, voilà. Donc, je me suis dit « Bon, après, moi, il est décédé quand j'étais encore trop jeune pour pouvoir... oser lui poser des questions. J'avais plein de questions à lui poser, mais je ne savais pas trop comment faire. Et puis, ben voilà, c'était trop tard. Et du coup, j'ai raconté au début du bouquin le peu de choses que je sais, en fait, de son parcours. Et ce qu'on m'a raconté, ce que ma mère m'a raconté. Une cousine m'a dit, mais vraiment, elle ne se souvenait plus grand-chose. Et ça m'a frappé, d'ailleurs, parce que mon arrière-grand-père, lui, a passé 10 ans aux États-Unis. Plus personne ne sait où il était aux États-Unis. Il est revenu. Et donc voilà, c'est resté comme une sorte de mystère, une parenthèse de vie qui à l'époque était quand même, qui n'avait rien de banal, parce qu'aller passer 10 ans aux États-Unis, c'était un événement, quoi. On parle des années de l'époque de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, et après j'ai commencé il y a 3 ans à écrire à la fois des articles un peu, essayer de remettre un peu de perspective historique dans ce qui se passait aujourd'hui, et puis à essayer de faire justement de recueillir des témoignages, des entretiens, quoi. Voilà, et pour voir un peu. Aussi que chaque parcours est par définition complètement individuel, que voilà, on ne peut pas ramener tout à des groupes, à des. Voilà.
Ce que j'ai à dire par rapport à ce que vous disiez, par rapport à votre histoire, cette exposition-là, elle va être. Elle a plusieurs lectures. Mmh. C'est-à-dire chacun il verra et il pensera ce que ça va. Cette exposition va révéler pendant la visite. Mmh. Et c'est le but de l'opération. Parce que bon, on parle d'une immigration, donc. C'est un prétexte pour nous faire aussi réfléchir sur notre positionnement en tant qu'individu, notre propre histoire. Est-ce qu'on a justement une histoire d'immigration derrière nous? Est-ce que l'immigré d'aujourd'hui n'est plus... c'est lui qui était l'immigré d'hier, plutôt, n'est plus immigré d'aujourd'hui. Il est installé, il a sa vie. Donc, quel est aussi notre regard face aux autres, face aux diverses immigrations? cette exposition-là, elle va réveiller l'envie à chacun de fouiller plus dans son histoire, mm-hmm. de voir d'où il vient, quels sont des objets aussi mm-hmm. qui font partie de l'histoire familiale, et d'approfondir un peu mieux ce que vous dites, justement, mm-hmm. que des fois on oublie de faire parce que le temps, la vie nous évite de le faire. Et c'est quand même notre ancrage en tant qu'individu, et ça nous permettrait peut-être de voir autrement aussi les immigrés qui arrivent aujourd'hui.
Il y a une communauté grecque importante à Nantes ?
Il y a une communauté grecque avec des générations, deuxième, troisième uh-huh. génération. Ils ne sont pas tous issus de cette immigration d'Asie mineure. Ouais. On voit une forte immigration d'Asie mineure à Paris, à Marseille particulièrement, Grenoble, Lyon. Mais à Nantes, non, ce n'est pas forcément des Grecs d'Asie mineure. Il y en a quelques-uns, évidemment, et dont il y a quelques-uns qui ont prêté aussi des objets pour l'exposition. Mais majoritairement, on trouve une immigration qui s'est installée à Marseille et Paris. C'est une barque achetée en 2006, ayant débarqué une quinzaine de réfugiés, ayant échoué sur les côtes de l'île de Chios, et qui a été ramassée par l'État grec. Et depuis, l'artiste l'a utilisée pour rappeler justement qu'on a affaire avec une histoire intemporelle, malheureusement, c'est-à-dire les mêmes histoires qu'on va lire ou on va voir sur les photos dans l'exposition Icônes trésors des réfugiés qui datent de 1922. C'est les mêmes photos qu'on voit et qui provoquent l'horreur d'aujourd'hui, avec des cadavres échoués sur les plages, avec des personnes qui ramassent comme ils peuvent leurs biens, tout ce qu'ils peuvent sauver pour partir, sur des embarcations. Donc en fait, on a le passé avec un événement de 1922 et le présent qui est dans la cour du château. Et justement, c'est pour nous rappeler qu'on n'a pas fini avec cette horreur.
Ça, je pense que c'est vraiment important, effectivement, de faire une jonction avec le passé. Parce que c'est un enjeu qui est très fort aujourd'hui sur les enfants et petits-enfants d'émigrés. Enfin, je le vois par exemple avec les immigrés italiens. Les enfants et petits-enfants d'émigrés italiens, finalement, il y a deux choix. Et c'est très, les avis ne sont jamais neutres.
Et il faut aussi dire que cette exposition-là, ça permet d'avoir aussi un autre regard face à l'immigré, qui donne aussi un espoir d'avoir une autre image de quelqu'un qui est réfugié. Les réfugiés d'hier, justement, et ce sont aujourd'hui des artistes, des écrivains, des commissaires d'exposition qui présentent ce qui est arrivé dans leur histoire familiale, de leurs grands-parents, etc. Donc peut-être ça permettra aussi aux gens qui ont peur des réfugiés de les voir comme des êtres humains qui ont des capacités justement intellectuelles. Tout simplement, la vie a été dure avec eux parce qu'ils ont été obligés de fuir leur pays parce que justement ils ne pouvaient plus rester là-bas, et donc il faut les regarder autrement, les respecter et les aider justement à pouvoir refaire leur vie dans une nouvelle patrie.
Vous êtes une petite fille ou une fille de réfugiés ?
Oui, mon nom déjà, Cesmeloglu, c'est un nom qui a été turquifié parce que mes grands-parents depuis des générations vivaient en Asie mineure, et donc ils ont été obligés, donc trois quarts de mes grands-parents, mes deux grands-pères et ma grand-mère qui vivaient en Asie mineure et qui ont été obligés justement dans des embarcations pires que ça de partir en 1922.
Cette histoire a été transmise au sein de la famille ?
Oui, j'ai vécu avec ça. Dans les repas familiaux, on parlait toujours de ça. Donc c'est quelque chose qui m'a été vraiment transmise à travers les objets et la mémoire de mes grands-pères, comment la vie était là-bas et l'horreur aussi, l'horreur qu'ils ont vécue aussi en arrivant en Grèce, qui était quelque part le pays de leur origine, l'accueil qu'ils ont eu, comment ils ont réussi à s'en sortir, avoir justement cette envie de reprendre pied et d'aller malgré les difficultés que la vie leur a présentées et de pouvoir justement avoir une dignité en tant qu'individu dans la vie. Et c'est ça qui ont transmis justement, et je le garde comme justement un trésor familial qui me poursuit toujours dans toutes mes activités et ma façon de penser.
Vous avez des photos de l'époque ?
Oui.
Et les traits de votre grand-père sont sévères ? Non, c'est pour faire une jonction avec la famille d'Olivier.
C'est non, je pense que c'était des gens qui avaient une... Enfin, mon grand-père, il avait une certaine fierté et dignité, malgré tout ce qu'on peut imaginer qu'il a eu sur le dos. Et justement, c'est ça qu'il a essayé de transmettre. C'est d'être honnête avec soi-même, dire ce qu'on pense, et justement, ne pas avoir peur de le dire.
Oui, moi, mon grand-père était très... C'était mon arrière-grand-père
qui était
très...
L'arrière-grand-père qui était...
L'arrière-grand-père, j'ai plus de photos quasiment de mon arrière-grand-père. Mais qui était, oui, qui faisait un peu peur. Mais mon grand-père était quelqu'un, au contraire, très affable, très souriant. C'est pour ça que je l'adorais. C'est parce qu'effectivement, je me disais, il a eu objectivement une vie plus dure que tout le reste de ma famille. Même si, bon, il y a eu des vies compliquées aussi. Hein, mais il a eu une enfance qui était quand même très, très dure. Parce qu'il avait connu la guerre, puis le départ, enfin voilà, la séparation de sa famille. Tout seul à 16 ans, à chercher du boulot dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue. C'est, voilà, c'est pas ça. C'est costaud quand même. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était habité d'une joie de vivre absolument incroyable et moi qui me faisait faire plein de bêtises, qui était, j'adorais parce que c'était celui qui me faisait faire les bêtises quand j'étais gamin, donc forcément c'était mon idole.
C'est pas pour l'esthétisme, faire l'esthétisme pour l'esthétisme. Il faut que ça évoque quelque chose. Ça nous provoque presque d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi c'est cela? Pourquoi on fait cette exposition? Et chercher. Il faut pas les voir et partir. Il faut poser des questions. Il faut se poser des questions. Aller chercher. À la librairie du château aussi, on a fait une sélection d'ouvrages autour de l'immigration. Donc c'est intéressant aussi d'aller fouiller un tout petit peu et puis faire quelques lectures autour de ça. Ça sera intéressant aussi d'approfondir. Il y a aussi les catalogues, l'album de l'exposition qui retrace, il y a des textes justement de tous les participants avec des propositions bibliographiques. Je pense qu'on essaye de fournir les maximums d'éléments aux visiteurs pour lui permettre d'aller au-delà et plus loin encore justement de ce qu'on offre comme proposition d'exposition.
Et juste pour finir, j'enregistrerai de la part d'un spectateur cette réaction, cette œuvre d'art ne devrait pas être là. Qu'est-ce que vous lui répondriez ?
Quelle est la raison de sa réflexion ? Pourquoi elle dit ça ? Et on discute.
Merci à Olivier Favier, l'auteur de Chroniques d'exil et d'hospitalité, livre paru aux éditions du Passager clandestin. Et merci à
Bernard,
Christian, Kyriakides Esmeloglou, la commissaire de l'exposition, icône trésor des réfugiés,
Louise,
pour leur libre participation à ce reportage.
Qui n'est pas concerné, on se sent même dans une espèce de place privilégiée. Quand on écoute aux infos ce qui se passe, on se dit, je pense que c'est ça, c'est obligé de nous toucher, c'est universel. Et en même temps, à un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi ?
Plein de choses.
Oui, certainement, oui.
Non, plein de choses, et je pense qu'on doit surtout faire des choses du point de vue individuel, justement, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir les gens en groupe, en masse, en flux, en stock, ça c'est le vocabulaire administratif, mais qu'effectivement, les gens qui arrivent, c'est des individus, et qui ont des problèmes qui sont parfois liés à des contextes historiques précis, etc., qui est toujours important de connaître, ou des contextes géopolitiques... les difficultés des voyages, elles se ressemblent souvent. Et puis les difficultés administratives quand on arrive, etc., etc. Mais c'est vrai que ce que ressent une personne, c'est toujours quelque chose de complètement individuel, surtout quand c'est des trajectoires aussi complexes. Pas forcément d'ailleurs que dures, mais complexes en tout cas, où vous changez quatre fois de pays, vous faites plein de découvertes, vous retrouvez face à des situations qui sont totalement inhabituelles. Mais oui, d'un point de vue individuel, il y a plein de choses. Déjà, essayer de commencer à tisser des liens avec les personnes.
Vous avez jusqu'au 13 novembre prochain pour apprécier l'exposition Icônes, trésors de réfugiés au château des Ducs de Bretagne à Nantes.